Oxyform. Oxyform. Tous les mercredis à 17h sur Occitanie Première. Sur Occitanie Première. Avec Romain Galthié.
Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Muraton. Pour cette première émission, nous allons commencer par féliciter nos médaillés aux Jeux Olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. La Corée du Sud, en tant qu'hôte de cet événement, finit 7e avec 17 médailles, dont 5 sont en or. La France a donc terminé 9e du classement mondial, avec 15 médailles. 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 6 de bronze. Loin derrière la Norvège qui finit première avec ses 39 médailles et ses 14 médailles d'or. Martin Fourcade est le sportif français le plus titré des Jeux. A lui seul, il a remporté 3 titres olympiques, 2 en individuel et 1 dans le relais mixte. Aujourd'hui, nous allons parler principalement d'athlétisme et de la course à pied. Alors, la course à pied, est-elle un phénomène de mode ou un marqueur social? Selon l'INSEE, la pratique de sport augmente avec le niveau de diplôme et par conséquent, le niveau de vie. Effectivement, plus le niveau de vie s'accroît, plus la pratique des activités comme le vélo, la natation ou encore la course à pied augmente. Si l'on peut constater que le phénomène de mode est évident, il y a aussi une vaste prise de conscience sur les bienfaits que cette pratique apporte. En effet, courir nous permet de constater chez les pratiquants une perte de poids, mais cela apporte aussi de nombreux avantages, un effet déstressant, et ce n'est pas tout. La course à pied réduit également le risque d'hypertension artérielle. Aussi, courir améliorerait la qualité du sommeil. En effet, cela permet d'être plus tonique dès le réveil. Autant de bienfaits pour votre esprit et votre corps que nous ne citerons pas, car ils sont bien trop nombreux. Pour en revenir à ce phénomène de mode, nos chères marques n'y sont pas pour rien, et le marketing autour de cette discipline attire de plus en plus de monde. Les événements sportifs de type marathon et autres courses sont le plus souvent sponsorisés par les grandes marques d'équipements et de vêtements sportifs. On fashionise le sport. Il nous reste à espérer dans cette pratique que la forme ne l'emporte pas sur le fond, bien que les deux aspects soient importants. N'oublions pas de prendre du plaisir dans nos foulées, c'est quand même le principal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir sur Occitanie Première de recevoir un entraîneur d'athlétisme, un amoureux de la piste et du dépassement de soi, un sportif qui connaît bien le goût de l'effort et qui possède les moyens de faire progresser son groupe. Bonjour Christophe Muraton. Alors, vous êtes originaire du Puy-de-Dôme?
Oui, tout à fait. Je suis originaire du Puy-de-Dôme et c'est là que j'ai fait mes premiers pas en tant que coureur. Après, de coureur encore plus expérimenté à cette époque-là, puisqu'il s'agissait de ni plus ni moins de sélectionner en équipe de France. Et donc, c'est à leur contact que j'ai appris à structurer des entraînements et aussi, où j'ai appris goût à la course à pied. Et peut-être plus tard aussi, ce qui m'a donné l'envie de partager cette passion.
Et vous avez fait toutes vos études dans le Puy-de-Dôme?
Alors, j'ai fait jusqu'en terminale, j'ai effectué mes études dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand. Et puis ensuite, j'ai conjugué le besoin d'explorer, de voyager avec mes études. Et donc, ce qui m'a amené, pas très loin en fait, à Saint-Étienne dans un premier temps, où j'ai suivi une formation en DUT génie électrique. Mais comme j'étais, comme je vous l'ai dit précédemment, animé par le goût de l'exploration, bien ça m'a, j'ai eu envie d'aller plus loin, et ce qui m'a amené sur Paris et dans le domaine des télécommunications spatiales. Et donc c'est cette passerelle-là qui m'a guidé jusqu'à Toulouse, où aujourd'hui j'exerce toujours dans le milieu du spatial, dans une entreprise chère qui est Thales Alenia Space. Quoi.
Donc vous travaillez dans le satellite?
Exactement, je suis responsable de l'intégration des satellites, et donc je m'occupe de la validation de leur fonctionnement jusqu'au pas de tir qui est le... Le jusqu'au bus de l'espace, en quelque sorte. Quoi.
Oui, donc comme dans la course, c'est un métier où il faut aller très vite, mais ça demande beaucoup de précision aussi. Je pense que vous n'avez pas le droit à l'erreur quand on envoie un satellite en orbite.
Eh bien, effectivement, comme on l'évoquait, les bus de l'espace que sont les fusées ne font que des allées et pas des retours. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore en capacité de réparer ou de prolonger la vie des satellites directement dans l'espace, en orbite. C'est pour cela qu'il y a une forte exigence de qualité, de fiabilité. Et il est vrai que le satellite tel que je le prends en main se situe donc en phase finale où il faut être à l'heure pour prendre ce fameux bus de l'espace. Et donc effectivement, c'est là que tous les temps se compressent et qu'il faut être en tout cas très efficace. À défaut d'être rapide. Quoi.
J'imagine que ça doit être un métier passionnant et que ça doit vous prendre énormément de temps.
Oui, c'est un métier passionnant parce qu'il est, il est associé au mythe de la conquête spatiale. Et donc, en cela, à travers ce métier, on goûte une part de ce mythe-là. Et puis ensuite, parce qu'il met en contact différents corps de métier avec différentes compétences. Et le succès des intégrations satellites repose sur un travail d'équipe. Donc, c'est intéressant d'un point de vue technique, c'est intéressant d'un point de vue humain. Et c'est des ingrédients extrêmement stimulants, quoi.
Donc vous avez quand même un rapport entre les valeurs de la course et du travail qui sont communs au niveau de l'esprit d'équipe, au niveau du dépassement de soi, de la précision.
Alors, oui. La course, la course à pied, le sport en général, c'est un jeu sérieux. Et il n'empêche que, comme dans tout jeu, on apprend beaucoup et ça déborde bien au-delà du domaine d'exercice qui est la course à pied. Et donc, en l'occurrence, effectivement, la course à pied, comme tout projet, ça se prépare, ça se planifie. Et en même temps aussi, il faut savoir s'ajuster, faire face aux imprévus. En l'occurrence, actuellement, c'est l'hiver, donc les grippes, le froid. Et malgré tout, maintenir un certain niveau d'assiduité, d'exigence, pour malgré tout braver le froid ou faire face au virus qui traîne.
Parmi tous les spationautes, il y a quand même des gens qui doivent avoir les pieds sur Terre et pratiquer la course à pied dans votre entourage.
Alors, les spationautes, je ne les connais pas, mais effectivement, autour de moi, la course à pied, comme partout dans la société, se développe énormément. Et oui, effectivement, dans le milieu professionnel, on peut partager des moments entre midi et deux où on va partager quelques foulées, oui.
Et dans votre parcours associatif, vous avez côtoyé le club du SATUC, auquel vous êtes entraîneur. Et est-ce que vous avez d'autres associations à votre actif ?
Le SATUC est la seule, mais pas la moindre, des associations à mon actif. Bon, c'est vrai qu'entraîneur, ça prend beaucoup de temps. Il y a la partie visible qui est celle qui consiste à être en contact avec les athlètes. Il y a aussi celle qui consiste à préparer les entraînements, préparer les saisons. Et lorsque les objectifs des athlètes commencent à diverger, notamment à l'approche du printemps, c'est adapter les séances en fonction des objectifs de chacun.
Et comment s'est passée votre formation d'entraîneur ?
Alors, ma formation d'entraîneur, ça a été une formation sur le terrain, puisque au départ, fort de l'expérience que j'avais en tant qu'athlète, j'étais sollicité pour partager cette expérience-là. Et ensuite, ces aptitudes, je pense, ont été remarquées au sein du club, et on m'a proposé donc, de suivre les formations FFA. Bon, et donc, ça m'a amené à passer des diplômes d'entraîneur régional. Et voilà maintenant de ça quelques années. Et depuis, j'ai envie de dire, j'ai le permis de conduire. Et saison après saison, c'est vrai que c'est aussi ça qui est entraînant effectivement et stimulant dans le métier d'entraîneur. C'est que saison après saison, athlète après athlète, on continue d'apprendre et c'est juste formidable.
Et vous avez commencé par courir ou par travailler ?
J'étais d'abord étudiant et c'est vrai que la mobilité posait une problématique, à savoir comment continuer une pratique du sport. Quoi. Et c'est vrai que le choix de la course à pied s'est vite imposé, puisque une paire de baskets, un short, un t-shirt, ça se met dans un sac et c'est parti, on peut courir n'importe où. Et puis ça permet aussi de visiter des endroits d'une façon différente. Donc, quand j'étais étudiant, ça m'a permis de connaître et de rencontrer les gens que je côtoyais, de me promener dans les villes. C'était vraiment intéressant. Et c'est une pratique que j'ai continué à une approche que je continue à avoir, notamment au travers de mes voyages. C'est toujours amusant de se perdre. J'ai le souvenir notamment quand j'étais parti courir à San Francisco, pas loin du Golden Gate. Bon, sur la carte, c'était tout petit. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais explorer. Et je me suis retrouvé à faire des footings de plus de 2 heures. Mais pour le coup, on en a plein les jambes et les images plein la tête. Et donc, oui, effectivement, pour en revenir au début de la question, bah, je pense que j'ai commencé par courir. Et ensuite, vu le bien-être que j'en tirais, j'ai continué cette pratique lorsque j'ai commencé mon activité professionnelle.
Donc, ça vous a quand même donné un goût du voyage ou vous aviez déjà ce goût de voyager ?
Alors, est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule ? C'est un vaste sujet. Je pense que les deux se nourrissent, quoi. Je me souviens des premières sensations de course à pied. C'est vrai que, bah, quelque part, foulée après foulée, j'ai envie de dire bon après bon, courir, c'est un peu voler, quoi. Et c'est un peu de liberté. Donc, je pense que ça compte, c'est l'état d'esprit de la course à pied a fait que, effectivement, a satisfait ce besoin d'exploration, oui.
Donc, à titre personnel, c'est quelque chose qui vous a été libérateur, la course ?
Libérateur, en tout cas, oui, épanouissant, au point de vouloir partager cette passion, oui.
Vous avez des anecdotes à nous raconter sur, par exemple, vos athlètes, leur parcours, ce qui vous a gratifié ?
Eh bien, en fait, paradoxalement, c'est vrai que j'ai de grosses satisfactions en termes donc, effectivement, de résultats sportifs. J'ai été très fier d'accompagner André, lorsqu'il a parcouru le marathon de Paris en moins de 2h35. Donc, c'était certes pas son premier coup d'essai, mais bon, année après année, eh bien, dans notre relation, c'est amélioré et donc, il a d'abord lui réussi et puis moi, j'ai été fier de l'accompagner dans sa pratique à atteindre ce niveau d'objectif-là. Alors après, c'est vrai que le marathon est l'exemple le plus symbolique et le plus parlant en termes de réalisation de soi, parce que c'est aussi ça là, qui est assez beau dans la course à pied, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour se transcender et dépasser ses limites. Donc effectivement, bon, un athlète qui a déjà fait un marathon et qui va de nouveau faire face à cet objectif, aux doutes qui l'accompagnent et les dépasser, bon, c'est toujours une superbe expérience. Après, effectivement, en tant qu'entraîneur, j'ai aussi des moments qui m'ont beaucoup touché. Lorsque, quelques années après mes débuts d'entraîneur, j'ai recroisé des athlètes qui je pense avoir en tout cas aidé dans leur début de parcours professionnel, notamment, puisque parfois un entraîneur, c'est celui qui met en relation une infrastructure, une association, un club, et notamment qui permet donc le club, qu'il faut le souligner, le statut qui a aussi fait office d'aide à la formation et qui a permis donc de donner des expériences professionnelles à de jeunes athlètes. Et qui leur a permis aussi de s'insérer dans la vie professionnelle. Et donc, voir quelques années des athlètes qui viennent vous revoir et qui, au détour d'une course, vous remercient, c'est toujours extrêmement agréable. Et puis, c'est vrai que parfois, on se pose la question de la trace qu'on laisse en tant qu'entraîneur. Et bien là, on voit que l'on peut être aussi utile bien au-delà du domaine sportif, quoi.
Ce sont des expériences de vie marquantes.
Ah oui, c'est extrêmement marquant, oui, parce que, en tout cas, pouvoir aider quelqu'un à se réaliser, c'est juste gratifiant et c'est une source de bonheur immense.
C'est en quelque sorte la finalité de ce rôle de coach.
Alors après, je ne sais pas si c'est une finalité, mais si c'est un des effets, il est plutôt appréciable. Et après, c'est vrai que moi, je suis là pour donner aux athlètes les moyens de s'accomplir et de s'accomplir dans une voie qu'ils ont choisie, quoi. Et donc, à ce titre, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, mais je suis surtout là pour les aider à se réaliser et raconter une histoire à deux, quoi.
Et en tant qu'athlète, avant de devenir coach, vous avez longtemps couru, vous avez dû subir différentes blessures. C'est quand même frustrant pour un athlète de succomber à une blessure.
Alors, je cours toujours. Donc, bon, quelque part, je suis toujours, entre guillemets, athlète. Mais je dois avouer que j'ai eu un nombre de blessures assez réduit, si ce n'est une petite aponevrosite plantaire. Et pour le coup, effectivement, bon, j'ai de la chance, mais ne s'arrêter qu'une semaine déjà, c'est vrai que on est en manque, hein. Et ça souligne bien un fait, c'est que bon, la course à pied, une fois qu'on y a goûté, c'est une drogue. Et donc, effectivement, on a besoin de sa dose de course à pied régulière et hebdomadaire, quoi.
Et pour la course à pied, cette fréquence, vous la pratiquez à combien de fois par semaine ?
Alors, ce qui est important, c'est d'avoir alors, comme je le dis souvent à mes athlètes, un bon entraînement, et un bon plan d'entraînement, c'est un plan qui est digéré. Donc à savoir qu'on tire des bénéfices des séances et on récupère bien. Donc, c'est l'alternance de l'effort et du repos. Donc aujourd'hui, en tant qu'athlète master, parce que c'est le terme consacré lorsqu'on a passé une certaine limite d'âge, je fais en sorte de m'assurer que le volume d'entraînement que je pratique est celui qui me permet de maintenir et de réaliser une progression tout au long d'une saison, quoi. Donc en ce qui me concerne, c'est des entraînements qui représentent 4 sorties course à pied accompagnées de séances de musculation ou de crossfit, qui est une activité que j'ai découvert il y a 3-4 ans cela, et qui est extrêmement intéressante aussi.
C'est complémentaire de pratiquer le crossfit avec une activité comme la course à pied ?
Alors, la pratique du crossfit et de la course à pied, ça peut être complémentaire, mais il faut faire attention à certaines... tout dépend comment on dimensionne la charge et l'exercice. Donc pour le coup, effectivement... si on travaille dans les zones qui correspondent aux zones d'hypertrophie, ça va être plutôt pénalisant pour la pratique de la course à pied si on s'est fixé comme objectif d'être optimum en course à pied, quoi. Donc il y a des zones où les disciplines se parasitent. Et donc pour le coup, il est plutôt conseillé de soit jouer dans le registre de des intensités maximales. Et donc à ce titre, donc le crossfit peut être intéressant. Ou bien en jouant dans le registre de la force maximale, à savoir en utilisant dans le crossfit des charges qui sont de l'ordre de 90% des répétitions maximales. En dehors de ça, ce qui est aussi important, et c'est pour ça que j'invite tous mes athlètes à se poser cette question, c'est de se fixer des dates objectifs. Et donc, du coup, d'organiser sa saison en fonction de dominante. Donc, voilà, en ce qui me concerne, mon objectif, ça sera les 10 km de mois de mars. Et après le mois de mars, j'ai envie de regoûter, on va dire, aux intensités du crossfit tel qu'il se définit. Et donc, j'organiserai ma saison en fonction de ça pour privilégier cette activité-là aussi, quoi.
Oui, donc il faut consacrer plus de temps à la course en prévision d'une épreuve et mettre le crossfit de côté par rapport aux problèmes que l'hypertrophie musculaire peut apporter pour cette compétition.
Ce qui est important, c'est de bien choisir son domaine d'intensité, effectivement, et de planifier les dominantes d'entraînement. Donc, les dominantes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelle discipline je privilégie par rapport à une autre discipline. Et à l'intérieur de la discipline, donc en l'occurrence la course à pied, est-ce que je privilégie donc le travail spécifique qui va s'apparenter au travail, aux intensités de la compétition, ou est-ce que je privilégie le travail d'intensité qui vont développer mes qualités en termes d'endurance maximale aérobie ou de vitesse maximale aérobie, quoi.
Il y a aussi beaucoup de questions qui sont soulevées. Alors il y a ceux qui s'entraînent le matin et ceux le soir. Vous seriez plutôt du matin ou du soir ?
Alors, si la question s'adresse à l'entraîneur, je répondrai que ce qui est important, c'est d'être conscient de sa chronobiologie. Et donc, de manière concrète, c'est la question que chacun devra se poser, c'est quand est-ce que j'ai envie d'y aller, quoi. Donc voilà, ça c'est un des premiers axes de réponse. Le second, effectivement, c'est on parle beaucoup de la pratique de la course à pied le matin, pour les effets bénéfiques qu'elle a sur la perte de masse grasse, puisqu'il est avéré effectivement que débuter un footing à jeun a pour effet de privilégier la consommation des lipides.
Donc pour la perte de poids, c'est intéressant de courir le matin.
Alors, pour la perte de poids, le footing à jeun est une des composantes qui permet effectivement de perdre du poids. Donc ça, c'est des avantages. Et donc, comme toute pratique, il y a des bénéfices et il y a des risques. Le risque, c'est quoi ? C'est que se lever le matin, par exemple, à 6 heures pour les plus matinaux ou à 7 heures, ça puise dans les ressources mentales et ça peut être une source de lassitude. Donc, c'est un axe de travail. Et donc, comme toute pratique, il convient de la pratiquer de manière progressive. Et donc, si on n'est pas habitué à ce genre de pratique, ben c'est bien de commencer par allez, 20 minutes, puis 30 minutes, 40 minutes, et etc., etc. Après, effectivement, ce que les études montrent aussi, et la pratique aussi d'ailleurs, c'est que l'intervalle training permet aussi d'activer le processus de consommation des graisses, parce qu'il élève le métabolisme de base. Quoi. Donc, élever le métabolisme de base, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après une séance d'intensité avec de l'intervalle training, eh bien, on regarde la télé, on est sur son canapé, eh bien, on peut constater que l'organisme continue encore à œuvrer et à consommer de l'énergie. Quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que l'on tire comme conclusion de tout cela ? Ben, qu'il y a plusieurs options. Et donc, le rôle de l'entraîneur, c'est de pouvoir choisir de les mixer ou de s'orienter sur l'une en particulier. En fonction d'un objectif qui, en l'occurrence, s'il concerne la perte de poids, bon, ben, on s'adapte en conséquence.
Donc après la perte de poids, nous allons parler de la nutrition. Mais en attendant, que nous proposez-vous d'écouter, Christophe ?
Eh bien, un morceau qui, il y a quelques années de cela, mais que j'avais écouté lorsque je courais en Russie, qui s'appelle « Hideaway » de Kesa.
We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Oxyform avec notre invité Christophe Muraton. Donc nous allons parler de la nutrition. Alors Christophe, quelle place a la nutrition dans l'athlétisme ?
Alors elle a une place prépondérante parce que effectivement tout à l'heure on parlait de la perte de poids. Typiquement je vais être un peu provocant, mais le sport fait pas maigrir. Et 80% de la démarche qui consiste à maigrir réside dans des choix diététiques. Voilà. En ce qui me concerne dans la pratique de l'entraînement au SATU, c'est vrai qu'on est plus axé sur de la recherche de performance, de dépassement de soi. Et donc à ce titre, effectivement, la diététique fait partie d'une démarche globale. Et donc effectivement, partir à l'entraînement avec un steak frites dans le ventre, on va vite se rendre compte que ça va être très très compliqué et qu'on va passer plus de temps à digérer qu'à s'exprimer à travers de la course à pied.
C'est une perte d'énergie pour le coureur de mal se nourrir avant un entraînement, une course ou n'importe quelle épreuve d'athlétisme.
Les choix alimentaires vont conditionner la réalisation des exercices. Et ils vont aussi conditionner la récupération. Donc, ce qui est important, notamment après des efforts importants et intenses, c'est de se rappeler qu'il y a une fenêtre métabolique qui est de 6 heures après l'effort et pendant lequel les capacités de stockage et de récupération du corps sont optimisées. Donc, les aliments vont être fixés et assimilés de manière plus intense. Et donc, c'est pendant ces 6 heures-là qu'il va falloir privilégier, pour le coureur à pied, la prise de glucides plutôt rapides après l'effort et qui vont s'échelonner vers des glucides un peu plus lents au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'effort. Donc, les glucides, effectivement, c'est l'aliment qui est le plus connu. Donc, on parle souvent des pâtes, mais il n'y a pas que les pâtes. Et donc, on va dire, toute la créativité des coureurs sera de choisir des sources de glucides variées. Et notamment pour la récupération, il est de bon ton de mélanger glucides rapides et glucides lents. Alors, à titre d'exemple, par exemple, ça sera le riz au lait que l'on saupoudra de préférence avec des glucides rapides de type miel ou sirop d'agave, qui sont plutôt des aliments, on va dire, plutôt sain et pas trop agressif pour l'organisme. En dehors de ça, effectivement, il ne faut pas oublier que l'organisme a besoin de se reconstruire et qu'à ce titre, donc, il est important que les muscles se régénèrent et donc l'apport de protéines ne doit pas être négligé non plus.
On entend parler du quinoa en ce moment qui est à la mode. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est une source de glucides. Après, le quinoa... C'est un apport comme parmi tant d'autres. Il a un faible index glycémique, donc à ce titre, il est intéressant. Maintenant, c'est vrai que le quinoa s'est cultivé en Amérique du Sud. Donc, on imagine facilement qu'il y a un certain temps et un certain nombre de bateaux qui sont nécessaires pour transporter ces produits-là. Mais là, on parle d'un autre domaine de la diététique qui n'est pas forcément... qui ne relève pas forcément que de la diététique, mais on va dire de l'éthique, de l'alimentation. Mais ça, je laisserai libre chacun de se faire juger.
Et donc pour le riz, on parle aussi, comme pour les pâtes, de riz complet ou de pâtes complètes. À ce qui paraît, c'est mieux parce qu'il y aurait des fibres.
Alors les fibres, le rôle des fibres, effectivement, ce que ça induit, les fibres, c'est une assimilation lente des glucides, et donc ça évite les pics de glycémie et les hypoglycémies réactionnelles qui sont associées. Et donc, concrètement, ce que ça signifie ? Ça signifie, je suis allé dans une chaîne de restauration rapide et une heure plus tard, j'ai encore faim. Typiquement, c'est ce qu'on appelle, c'est le symptôme d'une alimentation qui n'est pas équilibrée et en l'occurrence qui a fait appel à des sources de sucre plutôt rapides. Et donc, pour le sportif, c'est plutôt pénalisant puisqu'il est important d'avoir une bonne glycémie et entre guillemets de ne pas avoir faim pour pouvoir pleinement réaliser une séance. Donc, les fibres vont permettre de réguler l'assimilation des sucres lents, mais aussi des sucres rapides. Et donc, vont éviter ces phénomènes de baisse ou de baisse de forme qui sont liés donc à l'alimentation. Quoi.
Et que pensez-vous des régimes spécifiques avant un marathon ? Par exemple, il y en a qui vont avoir un régime très strict une semaine, complètement différent de leur régime habituel, avant leur course.
Alors, ce qui est important de faire attention, c'est comme je dis souvent à mes athlètes, le jour de la course, on ne découvre rien. Toutes les armes qui vont nous être utiles pour se réaliser doivent être parfaitement maîtrisées. Quoi. Et donc, une de ces armes-là, c'est quoi ? C'est le choix de ces aliments. C'est la connaissance de la façon dont on assimile ces aliments. Et c'est la façon dont ils se répercutent dans notre ressenti et dans notre fonctionnement à l'entraînement. Donc effectivement, on parle encore aujourd'hui de régime hyperglucidique à l'approche d'un marathon. Ben, c'est le genre de pratique qu'il convient d'avoir essayé lors de ces entraînements et lors de la préparation marathon en l'occurrence. Quoi. Donc il ne s'agit pas de faire... alors déjà, premièrement, le régime hyperglucidique, le but, c'est pas de fatiguer l'organisme en faisant une orgie de pâtes et se retrouver sur la ligne de départ plus fatigué par ces entraînements que par l'assimilation d'un repas trop riche et que par l'entraînement qu'on a fait avant. Donc ce qui est important, c'est donc de bien doser son alimentation donc, ses apports alimentaires en glucides et en protéines, parce que les protéines sont aussi importantes. Et ça, il est important de le tester lors de des entraînements spécifiques marathon. Et ce qui est aussi important d'essayer et de valider, c'est les ravitaillements qu'on va utiliser pendant le marathon. Quoi. Donc là, c'est pareil, on ne doit pas découvrir son ravitaillement le jour du marathon. On l'aura essayé lors des sorties longues que l'on aura pratiquées auparavant.
Alors ça, pour un marathon, c'est intéressant le ravitaillement parce que quels sont les facteurs pour se ravitailler ? Ça dépend de la personne, de l'organisme, quelles sont les conditions pour se ravitailler, les moments où il faudrait se ravitailler ?
Typiquement, je conseille de se ravitailler toutes les 30 à 40 minutes. Après, il convient d'être prudent, bon, et à savoir que pendant une épreuve sportive, l'estomac, les intestins sont moins irrigués, et donc l'assimilation va être plus compliquée. Donc, toutes les 30 à 40 minutes, l'expérience montre que c'est un bon intervalle, et la prise d'une portion de glucides de 10 à 15 grammes fonctionne très bien. Ensuite, si on sent qu'on a la bouche pâteuse, on régule avec l'apport d'une boisson, de l'eau tout simplement. Donc, d'où l'intérêt aussi d'anticiper sa prise de ravitaillement juste avant les ravitaillements entre guillemets officiels. Où là, si on se rend compte que l'on a trop dosé son apport en glucides, on peut le réguler en apportant de l'eau. Quoi.
Donc, il ne s'agit pas de s'arrêter à tous les ravitaillements qui sont, pour un marathon, si je me rappelle bien, tous les 5 km.
Oui.
Mais vraiment, au bout de 30 à 40 minutes, si on en ressent le besoin ou pas.
Alors, il est important d'avoir un apport régulier parce que la durée du marathon est telle que les réserves vont fatalement s'épuiser. Et donc, le fait d'avoir un apport régulier, d'une part, va apporter des sucres à un élément de l'organisme qui est très gourmand en sucre, à savoir le cerveau. Et donc, quand le cerveau va bien, tout le monde va bien, puisque c'est le cerveau qui pilote l'influx nerveux, c'est le cerveau qui pilote les jambes. Et donc, quand le cerveau dit oui, c'est tout le corps qui dit oui, quoi. Donc déjà, pour, ne serait-ce que pour le cerveau, l'irriguer régulièrement, c'est important. Et ensuite, pour ralentir, on va dire, la déplétion de glucides dans le muscle, oui, c'est important d'avoir une petite supplémentation. Mais elle ne suffira pas à pallier l'épuisement énergétique, d'où l'importance de bien maîtriser son allure et de connaître l'allure qui va permettre de couvrir la distance.
Une fois l'épreuve terminée, nous voyons beaucoup de coureurs prendre un shaker de protéiné ou se ravitailler afin de ne pas perdre trop de masse musculaire. Qu'est-ce que vous conseillez aux coureurs après un marathon ?
Alors oui, effectivement, lors des épreuves longues, voire très longues, le muscle, lorsque le support glucidique est épuisé, peut devenir une source d'énergie. bon, sa dégradation est plus difficile, donc ça impose des c'est associé à des efforts qui deviennent plus lents. Mais de fait, effectivement, il convient de reconstituer la masse maigre et l'apport en protéines peut être judicieux. Alors après, effectivement, on parle de l'apport via des checkers hyperprotéinés. Pour le sport d'endurance, ce qu'il convient, mon avis sur la question, c'est plutôt, je conseille d'avoir un apport en glucides qui serait réparti de la façon suivante, à savoir 70% de glucides, 30% de protéines. Ensuite, la question, c'est aussi l'assimilation des aliments. Donc les checkers protéinés, effectivement, sont une source d'apport en protéines. Ensuite, la question est de savoir de quelle façon, comment elles franchissent la paroi de l'intestin et comment elles sont assimilées par le corps. Ça, c'est une autre question. Et donc, du coup, le checker protéiné peut être constitué un apport, mais en tout cas, ne peut pas être le seul, quoi. Et donc, l'apport de protéines sur la base d'éléments lactés ou bien sur la base d'œufs me paraît une bonne solution.
Ensuite, pour les épreuves de type 10 km, le régime doit être différent, j'imagine, que pour un marathon.
Alors, sur les épreuves de 10 km, la question d'épuisement énergétique se pose moins. Mais après, donc, l'autre versant, c'est que bon, c'est plus court, donc c'est plus intense. Et donc, à ce titre, plus un effort est intense, plus l'efficacité, plus le rendement musculaire et plus le métabolisme musculaire est. Enfin, moins le métabolisme musculaire est efficace. Et donc, pour un glucide consommé, eh bien, on n'a pas forcément l'équivalent énergétique qui est reproduit. Et donc, du coup, ben, le paradoxe, c'est que sur 10 km, et voire même sur des distances plus courtes, l'apport énergétique en glucides ne doit pas être négligé et peut-être tout aussi important.
Ensuite, pour la récupération après ce genre d'épreuve, combien de temps sont nécessaires après un marathon ou tout autre type d'épreuve ?
Alors, lorsque j'ai débuté la course à pied, mes entraîneurs me disaient souvent qu'il fallait compter un jour de récupération par kilomètre couru. Donc, par exemple, pour un semi-marathon, à savoir 21 km, il était conseillé d'avoir une récupération de 21 jours. Alors après, effectivement, qu'est-ce qu'on entend par récupération ? Alors par récupération, ben, ça veut dire qu'on va faire on ne va pas s'amuser à reproduire les séances qui nous ont permis d'être au top de notre forme pour l'épreuve que l'on vient de courir, ou dans ce cas précis, le semi-marathon. Il n'empêche que on est capable de maintenir son niveau de compétence et son niveau athlétique par une pratique réduite, et donc en termes d'intensité, mais aussi en termes de volume. Donc la récupération, qu'est-ce qu'elle aura pour but ? De réduire l'intensité, de réduire le volume, et puis de augmenter ces deux composantes au fur et à mesure que la récupération s'améliore, quoi.
Donc ça veut dire qu'on peut continuer à courir de manière plus légère, de type endurance, et pas de durée trop longue, mais on peut continuer à faire du sport pendant cette période de récupération. Il ne faut pas un arrêt total.
J'ai envie de dire, il ne faut surtout pas un arrêt total. Souvent, effectivement, on parle de récupération active, et donc la pratique continue de l'effort, de la course à pied, permet au contraire de mieux récupérer. Et j'ai même cru comprendre que même dans les pathologies des coureurs qui sont blessés, aujourd'hui, la tendance, c'est de dire de ne pas stopper l'activité, mais de la continuer en étant raisonnable, mais surtout pas de l'arrêter.
Et l'aspect mental a quand même une position importante dans cette discipline.
Comme dans toute discipline, effectivement, il y a une composante mentale. Et le but de l'entraînement, c'est d'être en capacité de faire face à tous les imprévus le jour de la compétition. Et en fait, le but de l'entraînement, c'est ni plus ni moins de développer une palette de compétences et d'aptitudes physiques. Et c'est aussi s'adapter aux conditions qui vont se présenter. Donc, le jour de la compétition, il va peut-être faire beau, il va peut-être pleuvoir, il va peut-être y avoir du vent. Je ne serai peut-être pas aussi en forme que je le souhaiterais. Bon, bah, quoi qu'il en soit, en tant qu'athlète, ben, je me dois de répondre présent et de m'adapter à ces conditions-là et de faire appel à toutes les qualités que j'ai développées pendant l'entraînement. Quoi.
Donc, par le dépassement de soi, c'est aussi une forme de développement personnel.
C'est exactement ça, oui. Le but, c'est pas de réciter une partition lorsqu'on arrive sur la ligne de départ, mais c'est bien d'être conscient de toutes les qualités que l'on a développées. Et le but, c'est d'arriver le corps frais et l'esprit frais. Quoi.
Ensuite, nous allons faire une deuxième pause musicale. Vous avez un autre morceau à nous faire découvrir ?
Oui, alors celui-là, il est assez explicite et je l'associe à la pratique du running. Il s'appelle Running et c'est un morceau des Naughty Boy. Donc, il porte, à mon avis, toute l'énergie du running. Et bon, à tel point bon, que lorsque je l'écoute, j'ai qu'une seule envie, c'est prendre mes baskets et faire une sortie. Quoi.
Bon, ben, nous allons écouter ce morceau et ensuite, nous parlerons du Satuk.
Change the way I feel, the way I feel. I'm standing still, and nothing else matters now. You're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you.
Vous êtes toujours sur Oxyform avec notre invité Christophe Muraton. Que vous inspire ce morceau, Christophe ?
Bien, je trouve qu'il, enfin, en tout cas, quand je l'écoute, il y a les battements du cœur qui accélèrent. Et je trouve qu'il est plein d'énergie. Et du coup, c'est vrai que Il donne de l'allant. Pour moi, il porte l'énergie du running. Et c'est d'autant mieux, il le porte d'autant mieux que le titre du titre est running. Quoi. Et bon, il porte l'émotion du running, il en porte l'énergie. Et bon, voilà, c'est.
C'est une chanson de situation. C'est...
Ah oui, elle s'impose.
Pour en revenir au club du Satuc, depuis combien de temps vous êtes coach dans ce club ?
Et ben ça va faire maintenant plus de 10 ans. Je suis arrivé en 2000 au Satuc. Et 4-5 ans après, j'ai commencé à entraîner.
Comment définiriez-vous la mentalité de ce club ?
Eh bien, je trouve que c'est un club où les dirigeants ont le talent de regrouper une grande diversité d'athlètes. Donc, effectivement, il y a toutes les disciplines qui se rencontrent. Bon, il n'y a pas que la course à pied, il y a le saut à la perche, le saut. Bon, bref, toutes les disciplines athlétiques que l'on retrouve aux Jeux Olympiques. Mais il y a aussi une grande diversité d'athlètes. Bon, il y a des athlètes internationaux comme des athlètes qui débutent dans le running. Et donc, tout le talent de nos dirigeants, c'est de savoir créer un lien fort entre tous ces athlètes. Ouais.
Vous avez déjà organisé des courses pour le Satuc ?
Alors oui, effectivement, j'ai organisé à une époque les 10 km du Satuc. C'était une grosse expérience parce que effectivement, ça demande également aussi beaucoup d'énergie avec des équipes de plus de 100 personnes, soit ravitaillement, soit la protection des coureurs sur le parcours. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je me consacre entièrement à ma passion d'entraîneur et ce sont d'autres dirigeants du Satuc qui ont pris le relais et au travers donc d'une discipline qui ne cesse de monter depuis quelques années, qui est le trail. Et donc en l'occurrence, le Satuc organise le trail du Satuc, qui aura lieu cette année le 17 mars. C'est une très belle sortie, donc c'est autour de Toulouse, c'est du nocturne. Donc c'est les courses nocturnes, ça a toujours un climat particulier et extrêmement intéressant. Quoi.
Et quelle est votre spécialité en course à pied ?
À une époque, en ce qui me concerne, alors en tant qu'entraîneur, ma spécialité, elle s'étend du 10 km jusqu'au marathon, et voire un peu plus. Mais mon cœur de cible, effectivement, c'est le 10 km avec, c'est vrai, une préférence de cœur pour le marathon.
Et pour les jours d'entraînement ou vos cours à vous ?
Alors, le groupe Coach Christophe, puisqu'il s'appelle ainsi, s'entraîne le lundi et le jeudi, de 18h30 à 20h30. Donc après, effectivement, donc sur cette plage horaire-là, on court, mais pas seulement. On pratique donc les éducatifs, c'est donc à savoir tous les gestes qui vont permettre d'améliorer sa foulée et qui vont permettre de se renforcer, puisque bon, courir, ce n'est pas que bouger les jambes. C'est tout le corps s'inscrit dans la course. Et donc, pour qu'une course soit efficace, il convient, entre guillemets, d'être gainé. Donc, les pratiquants connaissent tous ce terme-là. Donc, on fait donc de la PPG, de la préparation physique généralisée, du gainage. Et ensuite, effectivement, donc, accompagné donc, des cœurs de séance qui sont orientés en fonction des objectifs du moment. Quoi.
D'accord. Et vous, pour le lieu, c'est le hall du gymnase du stade Daniel Fauché.
Effectivement, on a l'habitude de se retrouver au stade universitaire Daniel Fauché, devant le hall. Et voilà.
Et ensuite, vous êtes plutôt dans une dynamique de compétition ou de loisir par rapport à votre groupe où tout le monde peut venir. C'est...
Alors, ce que le groupe s'inscrit dans une dynamique de compétition. Alors après, qu'est-ce que c'est la compétition ? En ce qui me concerne, je ne la définis pas par une question de niveau, à savoir niveau international ou national. Je la définis par rapport aux objectifs qui sont ceux de l'athlète. Donc, comme je le dis à mes athlètes, le but, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et si ce point B est plus élevé que le point A, c'est qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de compétition. Donc, si demain, un athlète vient me voir et me dit, je n'ai jamais couru et dans 12 mois, je vais préparer le marathon de Paris, il est pour moi dans une dynamique de compétition et une dynamique de dépassement de soi. Et donc, il a toute sa place dans le groupe.
Il n'y a pas un objectif, il n'y a pas de prérequis de performance, mais il y a des objectifs à avoir.
C'est la dynamique dans laquelle on s'inscrit qui va dire si on est dans le loisir ou dans la compétition.
D'accord. Et vous avez des anecdotes par rapport au club ?
Alors, des anecdotes, oui, elles sont nombreuses. Ben, c'est... Alors, typiquement, c'est vrai que bon, bientôt, le club va envoyer plus de 100 athlètes au championnat de France de cross. Et bon, pour ma part, j'ai pu courir à participer à ces championnats de France de cross, mais j'ai pu aussi y assister en tant que spectateur ou entraîneur. Et c'est vrai que assister aux performances des athlètes et les voir se dépasser, se battre pour le podium, sentir que dans nos encouragements, on est une source de motivation, on leur fait oublier la fatigue. C'est toujours intéressant et c'est toujours extrêmement plaisant de pouvoir les encourager et sentir qu'on peut être aussi une force pour les pousser à dépasser leurs limites.
Vous avez des défis à venir pour votre groupe ?
Les défis à venir, c'est les marathons de printemps. Après, un peu plus loin, ça sera les grands raids des Pyrénées. Mais effectivement, l'hiver passe, on a passé beaucoup de temps à travailler la vitesse maximale aérobie, à travailler aussi en mode fartlek au travers des crosses, au travers des sorties nature en intensité. Et donc là, on va concrétiser toute cette préparation hivernale. On entame une phase spécifique où l'on se prépare sur les objectifs que semi-marathon, 10 km ou marathon, avec le marathon de Paris au mois d'avril, ou les semi-marathons qui auront lieu à Auch ou à Blagnac, un peu plus près de chez nous.
Maintenant, nous allons passer à la séquence littéraire. Donc, nous avons le choix de l'invité.
Oui, alors j'ai pensé à deux livres. Le premier, c'est Orwell, et donc à deux titres. C'est parce que c'est pour moi un visionnaire et il décrit très bien, il offre aujourd'hui sur notre société actuelle un autre regard. Et j'invite tous les lecteurs qui ne l'auraient pas encore vu de le lire et de s'intéresser ensuite au fonctionnement des réseaux sociaux. C'est extrêmement intéressant. Et puis c'est aussi une réplique de l'auteur qui s'amusait à dire que l'âme humaine était manquée de ressort quand il s'agissait d'affronter l'adversité. Et donc, en tant qu'entraîneur et en tant qu'athlète, je me suis toujours attaché à le faire mentir. Et enfin, le deuxième livre, a priori un peu plus léger, qui est de Frédéric Bébédé, qui est 99 francs. Alors, ce livre, je l'apprécie beaucoup pour le style de l'écriture, quoi, qui est extrêmement punchy. Et le rôle d'entraîneur aussi, c'est être en capacité de faire passer ses idées, d'être en capacité de faire passer un message. Et à ce titre, c'est une vraie source d'inspiration.
Très bien. Alors pour moi, j'ai choisi aux éditions Thierry Soucard, alors un livre sur la nutrition qui s'appelle « Nutrition de la force » de Julien Vénesson. Alors c'est un livre qui présente une base solide pour tous les sportifs, que ce soit en musculation, en athlétisme ou pour n'importe quel autre sport. Alors à titre personnel, je le trouve très intéressant pour la compétition et pour optimiser ses performances. Ce livre, pour moi, est utile. Ensuite, nous allons passer aux courses à venir dans la région. Donc, nous avons la boucle du Bassac, dimanche 4 mars 2018, qui vous propose un trail de 10 ou de 16 km à Colomiers. Ensuite, nous avons la Flamme Occitane, le samedi 10 mars 2018, c'est une course de 7 km ou de 15 km à Montrégeau. Et pour terminer, nous avons le 10 km et le semi-marathon de Blagnac, le dimanche 11 mars 2018.
Oxyforme. Oxyforme.
Vous étiez sur Oxyforme, une émission de Romain Galtier. Nous remercions Jean-Louis Arzac à la technique. La semaine prochaine, nous recevrons un cryothérapeute qui est bien connu des sportifs toulousains et de bien d'autres personnes du corps médical. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook d'Oxyforme ou d'Occitanie Première, ainsi que sur le site de la station ou sur www.oxyfit.fr. Je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine.